Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui se portera sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Le but, c'est de comprendre un peu quelle est la réalité aujourd'hui, quelles sont les limites des systèmes et quelles sont les perspectives pour le futur. Je vais rentrer dans quelques points techniques, mais l'idée, c'est surtout de vous donner un goût aux enjeux éthiques qui sont soulevés par l'intelligence artificielle, et ils sont très nombreux. Peut-être qu'à la fin de cette présentation, vous aurez plus de clés en main pour avoir un recul critique sur ce qu'on appelle intelligence artificielle, et sur les moyens de développer une intelligence artificielle qui soit efficace, mais surtout responsable. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Le terme intelligence n'est peut-être pas le plus adapté, parce qu'en français, intelligence est reliée à une conscience, et ça donne une dimension un peu effrayante. Le terme, cependant, il vient de l'anglais, et en anglais, intelligence, ça témoigne plutôt d'une qualité à gérer des informations. Par exemple, CIA, c'est la Central Intelligence Agency. Et cela n'évoque pas une personne morale. Le principe de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un apprentissage par l'exemple. Alors qu'une approche plutôt par compréhension, ça consiste à donner des données génétiques d'un patient et à essayer de comprendre à partir des données génétiques qu'est-ce qui va avoir un lien avec le développement d'une maladie. En intelligence artificielle, on donne à la machine à la fois les données génétiques, mais aussi les données de qui à développer ou non une maladie, et ensuite on laisse l'algorithme s'optimiser tout seul. Et ce sera à lui de comprendre, sans qu'on l'ait guidé, qu'est-ce qui avait un lien entre les données génétiques d'entrée et la maladie de sortie. Lui, il va essayer de maximiser sa performance, c'est-à-dire la justesse de la prédiction, à partir de tout ce qu'on lui donne. Le processus, il est itératif, et il implique un très grand nombre de patients. Une fois que l'algorithme est optimisé et qu'il est satisfait de sa prédiction, on dit qu'il est entraîné. Attention, il ne s'agit pas juste de stockage en mémoire. Le jour où l'algorithme rencontre un nouveau patient, il n'a plus accès à ces patients sur lesquels il a été entraîné. Il s'est donc performé sur des situations qu'il n'a jamais vues. Pourquoi? Parce qu'il a compris des choses dans les gènes d'entrée qu'on lui avait donnés, qui peuvent ou non avoir un lien avec le développement d'une maladie. Et donc, quand il voit des nouveaux gènes, il va en déduire quelque chose sur la maladie du patient. Cependant, ce n'est pas la même compréhension que celle d'un humain. Souvent, on a tendance à croire que l'algorithme comprend la même chose que nous. Mais non, c'est rarement, voire jamais le cas. La compréhension de l'algorithme est très différente de la nôtre. Alors, on entend les mots intelligence artificielle de partout. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a certainement un phénomène de mode, mais aussi on a plus de données qui sont disponibles, des compétences qui s'améliorent et des puissances de calcul qui deviennent de plus en plus importantes. Et donc il y a des budgets qui sont mis en œuvre et qui permettent le développement de ce secteur. En santé, il y a déjà eu des applications d'intelligence artificielle qui ont eu un grand succès. Je peux vous donner quelques exemples. Déjà, pour le diagnostic, on peut avoir un diagnostic rapide et précoce et automatique. Par exemple, on peut diagnostiquer des rétinopathies diabétiques à partir d'images de fond d'œil. On peut aussi avoir un diagnostic qui est précis et adapté à chacun. Par exemple, on peut caractériser des tumeurs de manière très précise au niveau moléculaire et cellulaire pour savoir au mieux quelle est la maladie du patient. Ensuite, une fois qu'on a diagnostiqué, on peut traiter de manière personnalisée et adaptée. L'exemple célèbre, ce sera pour les patients diabétiques qui ont des pompes à insuline. On va introduire de l'intelligence artificielle où on aura des données nombreuses sur le patient qui permet qu'on ait une administration d'insuline qui est particulièrement précise et adaptée au patient. Enfin, un dernier secteur, c'est la découverte de médicaments où il y a eu des bons qui ont été faits parce qu'on peut prédire mieux, grâce à l'intelligence artificielle, quel patient sera réceptif à une molécule, quelle molécule va interagir de quelle manière avec des protéines. Alors maintenant, si je m'adresse à vous, personnel de santé, qui pouvez être confronté à des solutions d'intelligence artificielle et vous avez besoin d'avoir un regard un peu critique par rapport à cette solution, qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez en priorité? Il y a un proverbe en informatique qui s'appelle garbage in, garbage out. La qualité des données est essentielle. Un algorithme qui a reçu des mauvaises données va donner des mauvais résultats parce que l'intelligence artificielle, c'est rien d'autre qu'une compréhension de données d'entrée. Donc si vous donnez des mauvaises données, il ne comprendra pas bien. Cependant, les données, elles ne sont jamais parfaites parce que c'est la réalité du monde. Hein, et cela peut donner lieu à des problèmes importants. Alors, un exemple, il y a eu un système de montres connectées qui permettait de prédire des risques d'arrêt cardiaque. Le problème, c'est que ces montres étaient mal calibrées et elles ont commencé à prédire des arrêts cardiaques à tort et à travers. Et quand bien même les données sont ajustées, elles ne sont jamais complètes. Les données ADN, par exemple, les séquences ADN, elles comportent toujours des lacunes. Donc il faut qu'on fasse avec. On fait avec des données qui sont peut-être moins bonnes que ce qu'elles devraient être. Enfin, le problème dont on parle souvent en intelligence artificielle, c'est les biais. Donc les données, elles ont des biais à l'intérieur, c'est-à-dire que on est limité à ce que les données contiennent. Et notamment, on va rarement avoir une représentation parfaite de la population mondiale dans les données qu'on donne à un algorithme. Il y a eu des algorithmes qui prédisaient des mélanomes cutanés de manière très précise, mais que sur les peaux blanches. Et le jour où on a donné une peau noire à l'algorithme, il n'a pas été capable de comprendre qu'il y avait un mélanome. Donc vraiment, l'idée, c'est que les données qui sont données en entrée à l'algorithme doivent être le plus exhaustives possible. Une fois qu'on a récolté les données, vous donc, en tant que professionnel de santé, on vous donne un algorithme qui a été optimisé, donc qui a a priori un très bon critère de performance, puisqu'il a été optimisé pour maximiser son critère de performance, et vous avez les résultats de l'algorithme. Et là, vous êtes un peu coincé parce que vous ne comprenez pas quelles sont les règles de décision de l'algorithme. Pourquoi est-ce qu'il vous donne ce résultat ? On ne sait pas quel critère a été important pour lui, pour l'algorithme. Qu'est-ce qu'il a regardé en priorité parmi les données génétiques du patient pour pouvoir prédire qu'il y avait une maladie ? Vous ne savez pas quels exemples ont été utiles pour l'algorithme parmi tous les patients qu'il a vus pour vous donner aujourd'hui le résultat qu'il vous donne. Un exemple, c'est un algorithme qui avait été développé qui indiquait si un patient devait être hospitalisé ou rentrer chez lui. Quand le patient avait une pneumonie, on disait qu'il était hospitalisé. Quand il avait une pneumonie et de l'asthme, l'algorithme disait que le patient pouvait rentrer chez lui en toute sécurité. Pourtant, l'asthme, c'est un facteur aggravant, donc il ne devrait pas pouvoir rentrer chez lui en sécurité. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait ces prédictions erronées, et on s'est rendu compte que dans les données patients qu'on avait données à l'algorithme au moment de son entraînement, les patients qui avaient eu de l'asthme avaient été très bien pris en charge, et donc l'algorithme en avait déduit que l'asthme était un facteur qui diminuait la gravité de la pneumonie. Donc, ce que je veux dire ici, et qui rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la compréhension de l'algorithme est différente. Et s'il y a des biais dans les données d'entrée, il prend ces biais et il en fait une prédiction qui peut être erronée. Mais alors, si la machine est en désaccord avec le médecin ou l'utilisateur de la machine de manière générale, il y a une question du coup de responsabilité. Qui a le dernier mot ? Est-ce qu'on dit que c'est le médecin ? Pourquoi pas ? Mais est-ce que le but, c'est pas aussi que la machine soit capable de comprendre des choses qui vont au-delà de la compréhension d'un être humain ? Donc, c'est difficile de savoir qui tranche. Enfin, donc, pour votre conduite de projet, une fois que l'algorithme a été développé, il y a un aspect qui est peu pris en compte, c'est le suivi de cet algorithme. Une fois lancé, est-ce qu'il y a une possibilité de stopper une application dangereuse ? De plus, un système informatique, il est voué à connaître des mises à jour, à être dynamique, à s'améliorer. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on va bien suivre que les mises à jour ne sont pas dangereuses ? Aujourd'hui, la conduite d'un projet en informatique, elle est faite un peu tête baissée. C'est-à-dire on a en tête des opportunités, on réfléchit pas trop aux risques, on développe, et ensuite, une fois qu'on a développé, on va confronter notre algorithme pour essayer de comprendre où est-ce qu'il peut faire des erreurs. Alors que on pourrait, avant de concevoir l'algorithme, réfléchir à quelles sont les frontières où je veux être sûr que l'algorithme n'ira pas explorer de ce côté-là. Par exemple, si je veux être sûr que mon algorithme ne peut pas recracher plus tard des données patients sur lesquelles il a été entraîné, et ben je peux spécifiquement construire un algorithme en ayant cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas redonner des données patients telles quelles. Alors maintenant, je vous propose d'élargir le point de vue et voir des conséquences plus globales de l'intelligence artificielle sur la santé et sur la société. Je voudrais qu'on s'intéresse à des conséquences du coup sociales, mais aussi éthiques de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de preuves de concept qui ont été développées. Certaines sont utilisées dans des hôpitaux un peu de manière isolée, mais il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de système généralisé qui soit utilisé de manière à grande échelle. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des freins qui font qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, elle n'est pas développée à grande échelle dans la santé? Déjà, l'intelligence artificielle, elle fait intervenir des acteurs qui sont très différents et qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. D'un côté, il y a des cliniciens qui sont méfiants parce qu'ils ont un système qu'ils ne comprennent pas forcément. De l'autre, des informaticiens qui déploient des choses, mais qui ne comprennent pas les enjeux cliniques et humains de leurs travaux parce qu'ils n'ont pas une connaissance du terrain. De plus, le système de santé connaît des réglementations très lourdes, et c'est bien, mais qui ne sont pas forcément adaptées à des systèmes informatiques. Là, je vous donne l'exemple très connu de l'étude clinique. Donc une étude clinique, ça dure rarement moins d'un ou deux ans. Mais dans le monde de l'informatique, un ou deux ans, c'est beaucoup. En un ou deux ans, vous pouvez avoir des avancées majeures qui font que les performances de votre système, elles sont obsolètes. Elles sont mauvaises, elles sont plus du tout de la qualité de l'état de l'art. Par exemple, si vous avez un ChatGPT ou un DeepFace qui sort, et ben, votre algorithme, il est périmé. Et de plus, la réglementation, elle est statique. Donc, on va mettre une réglementation sur un algorithme à un instant T, sans prendre en compte que, comme je vous disais tout à l'heure, l'algorithme, il est voué à avoir des mises à jour, à avoir des corrections de bugs, il va se développer. Et est-ce qu'on refait une étude clinique pour toutes les mises à jour? Alors, il y a quand même des réflexions hein, qui sont en cours par l'Union européenne, notamment, qui sort des projets de loi d'intelligence artificielle, notamment en santé. C'est important qu'on trouve un compromis qui ne freine pas la recherche, mais qui en même temps offre le cadre légal qui est quand même nécessaire. Enfin, j'évoque un dernier frein à la généralisation de l'intelligence artificielle, c'est que il y a l'intervention d'acteurs privés très puissants qui jusque-là n'intervenaient pas en santé, notamment ben voilà, Google, DeepMind, Facebook. Ces acteurs-là, on ne sait pas encore comment les faire interagir avec des systèmes publics de santé. Est-ce qu'on leur donne accès aux données de santé qui sont confidentielles? D'un côté, on n'a pas envie, mais en même temps, ces acteurs-là, ils ont des puissances de calcul, des ingénieurs de grande qualité, et ce serait dommage qu'ils n'aient pas leur droit, à développer des algorithmes performants sur les données de santé. Et donc, cette mauvaise communication, elle induit des situations assez paradoxales, où, par exemple, on observe des géants comme Apple ou Google, qui détiennent un énorme nombre de données liées à la santé via leurs applications connectées, donc Apple Health, Google Fit, mais ils n'ont pas d'obligation de les transmettre à la recherche publique. Donc aujourd'hui, ils ont ces données-là et ils les gardent pour eux. Enfin, dernière partie de cette présentation, ce sera sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle qui existent déjà aujourd'hui, à la fois à l'échelle de l'individu et à l'échelle du groupe. Donc, je pense qu'à la sortie des premiers systèmes d'intelligence artificielle, il y avait un idéal philosophique qui était de diriger le patient vers plus d'autonomie et de liberté individuelle. On imaginait un monde de demain où l'individu possède toutes les informations sur sa santé, il connaît l'impact de chacune de ses décisions au quotidien. Il devient extrêmement responsabilisé, pardon. Ça devient un acteur de sa propre santé et il est donc plus libre. Cependant, la réalité, elle est tout autre. Aujourd'hui, il y a une dualité qui s'est créée entre, on appelle le moi réel, qui est donc ma personne, et le moi numérique, qui est ma représentation numérique. Et cette dualité, elle peut être presque schizophrène. D'un côté, on peut avoir un moi réel qui se sent en très bonne santé, mais voilà, son application connectée ou le système de santé lui dit, ah, mais tu n'es pas en bonne santé, alors même que lui se sent en très bonne santé. À l'inverse, on imagine un moi numérique qui dit que tout va bien, alors que moi, je me sens fatiguée, je me sens moins bien que d'habitude. Et pour autant, c'est pas aligné avec ce que je vois dans mon moi numérique. Et c'est étrange parce que le moi réel, c'est moi. Moi, j'ai une réalité physique, je reçois des informations de mon propre corps, je suis sûre de ce que je ressens. En revanche, le moi numérique, je ne sais pas d'où viennent les informations qu'il me donne. Et je ne sais pas non plus comment elles ont été calculées. Donc si par exemple, il me dit qu'il faut que je calcule, que je marche pardon, 10 000 pas. Qui a calculé que 10 000 pas était le meilleur nombre de pas à faire? Et pourquoi, pourquoi pas 15 000 pas? Pourquoi pas un marathon, un ultra-marathon? Et puis, l'application qui me donne des conseils ne connaît pas toute ma réalité, toute ma complexité. Par exemple, si elle me dit de faire du sport et que la personne est une mère de 3 enfants qui travaille, elle n'a peut-être pas le temps d'aller à la salle. Si elle me demande d'acheter des produits de bonne qualité, eh ben, peut-être qu'un étudiant n'aura pas le budget d'acheter des légumes tous les jours. Donc le patient qui était censé avoir gagné en liberté, il devient au contraire soumis à une dictature numérique qui lui impose des règles qu'il ne comprend pas. Et encore plus angoissant, le patient ne sait pas quelles seront les conséquences de ne pas suivre ces règles. Et donc, il y a une grande anxiété qui se crée de ne pas savoir s'il doit ou non écouter la machine. Et donc, on se pose cette question un peu philosophique, est-ce que le fait d'être mieux décrit permet d'être plus heureux? Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas vraiment le choix de refuser de se faire décrire, de refuser de se faire enregistrer. On n'a pas le choix de refuser de se faire diagnostiquer par une machine, par exemple. Enfin, le dernier enjeu éthique dont je souhaite parler est très souvent négligé, et pourtant je pense qu'il est très important. Il s'agit de la protection des groupes. Donc le principe même de l'intelligence artificielle, c'est à partir d'un grand nombre, de faire des groupes, de comprendre des tendances, de rassembler des gens. Aujourd'hui, on protège beaucoup l'individu et les données personnelles, mais personne ne protège les groupes. Et si les résultats d'une étude, complètement publique, puisque les résultats des études sont publics, accusent toutes les personnes aux cheveux roses et aux yeux bleus d'avoir plus de chances de développer un cancer, qui peut empêcher une assurance de vous faire payer plus cher parce que vous avez les cheveux roses et les yeux bleus? De plus, la description des groupes, elle est très inégale. Si vous regardez autour de vous et que vous cherchez les personnes qui ont besoin des systèmes de santé, vous imaginez des sans-abri, des personnes âgées, des personnes avec des problèmes psychiatriques. Puis ensuite, vous arrivez dans un laboratoire et vous regardez les données numériques que vous avez. Ces personnes-là ne sont pas représentées. Aujourd'hui, on améliore toujours plus la santé de populations très privilégiées, jeunes, souvent européennes ou américaines, qui ont accès au numérique, mais on laisse de côté des populations plus précaires et qui ont moins accès au numérique. J'arrive donc à la fin de cette présentation. J'espère vous avoir convaincu à la fois des grandes opportunités de l'intelligence artificielle, avec des magnifiques avancées, des promesses très excitantes, mais aussi de risques et enjeux de ce domaine qui est très récent. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une réflexion groupée qui fasse intervenir à la fois des professionnels de santé et des professionnels de l'informatique, mais aussi des professionnels de la loi, peut-être des représentants des populations, afin de se tourner vers une intelligence artificielle qui soit plus responsable, tout en étant toujours très efficace.